Bonjour, nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 13, versets 18 et 20, s'il vous plaît. Luc 13, 18 et 20. C'est Jésus qui parle et dit: À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme aura pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Frères et sœurs, beaucoup de choses ont été dites sur ces deux paraboles. Mais il y a là une grande vérité révélée. Jésus dit que celui qui cherche y trouve. Alors, avec quel élément est-ce qu'on va chercher? Paul dit que nous avons notre intelligence et nous avons l'esprit. Quand nous louons Dieu par l'esprit, il dit que notre intelligence demeure stérile. 1 Corinthiens 14, 14. Donc les deux choses sont bien dissociées, les deux choses sont bien différentes. Et il en va de même dans tout ce qui est notre vie. Hein, c'est par l'intelligence ou par l'esprit. Il en va de même hein, pour ce qui concerne l'étude des Écritures. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Par l'esprit, je peux apprendre, mais par mon intelligence, je peux aussi apprendre. Une personne qui écoute par exemple une prédication n'est pas à même de savoir si le message que contient cette prédication est le fruit de l'intelligence du prêcheur ou si c'est le fruit d'une révélation donnée à ce prêcheur. Il ne voit pas la différence. Maintenant, ce n'est pas mal d'enseigner par l'intelligence, mais c'est autre chose que d'enseigner par l'esprit de révélation. L'intelligence d'un prêcheur peut être ointe, sanctifiée, renouvelée par le Saint-Esprit. Vous savez, en fait, le mot intellectuel, c'est un mot typiquement français. En France, un prêcheur intellectuel est souvent regardé comme un prêcheur non inspiré. Par exemple, je me souviens de cette anecdote quand François Mitterrand s'était trouvé en Angleterre, avait demandé d'avoir le privilège d'être assis à côté de quelques intellectuels. Il avait été répondu, mais nous n'avons pas d'intellectuels ici. Nous avons des philosophes, nous avons des scientifiques, nous avons. Mais chez nous, c'est ce mot intellectuel, n'est-ce pas? Ça englobe un peu tout et puis rien en fait. Que dit l'esprit? Que dit l'esprit au sujet du royaume de Dieu? Eh bien, un royaume, c'est un endroit, c'est un territoire. Le royaume de Dieu, c'est le lieu de la vie. C'est le lieu de l'amour, c'est le lieu où il n'y a qu'une seule soumission, celle qu'on doit au roi, à Jésus. Le royaume de Dieu est le lieu où règne Jésus et où se trouvent ses sujets. Parmi ses sujets, alors vous avez le roi, et puis vous avez ses serviteurs, vous avez aussi ses servantes, vous avez aussi ses enfants, hein, les enfants du roi, et vous avez l'épouse du roi. Ce royaume a commencé à s'établir un jour bien précis sur la terre. Le jour où Jésus est mort, le grain de vie, la semence de vie, la semence de l'amour est tombée en terre. Hein? Nous savons que Dieu est amour, nous savons que Dieu est vie. Eh bien, il a dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Donc, le jour où Jésus a été mis en terre, eh bien, c'est là que le royaume a commencé à s'établir. C'est le grain de sénevé dont parle Jésus ici. Jésus est ressuscité le troisième jour et il y avait 120 personnes qui ont reçu son esprit, c'est-à-dire que Jésus est venu vivre en eux. Si vous voulez, on va dire un mot un peu plus cru, Jésus est venu s'incarner en eux. L'esprit de Jésus est venu dans la chair d'homme, de femme qui était là, hein, et Jésus a commencé à continuer son œuvre par eux, au travers d'eux. Et puis le temps a passé, beaucoup de monde s'est converti, et l'Église est devenue petit à petit une organisation importante. Au commencement, la vie du grain de sénevé, quand ça a commencé à sortir de terre, juste après la résurrection de Jésus, c'était faible, 120 personnes. C'était une tige faible, vivante, mais faible aux yeux du monde. Pas aux yeux de Dieu, mais aux yeux du monde. Et puis cette tige, elle est devenue un arbrisseau. Et puis c'est devenu un tronc avec des pousses, avec des petites branches. Hein. Puis le tronc s'est fortifié, il a puisé la vie dans, là où était l'origine, c'est-à-dire à l'origine de la vie, en Dieu. Il a puisé là la vie, il l'a transmise, n'est-ce pas, aux branches, etc. Et l'Église est devenue un arbre immense. Voilà. Mais voilà que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ces branches. Alors, comme ça a l'air joli, dit comme ça. Hein. On peut dire, ah, c'est poétique, n'est-ce pas, une petite graine, et puis un jour ça devient un grand arbre, et puis alors, il y a les petits oiseaux qui viennent, oh, comme c'est mignon. Mais regardons ça avec le secours de l'Esprit de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le grain de Senevé. C'est le produit du grain, c'est-à-dire c'est l'arbre, ce n'est pas les oiseaux. Les oiseaux du ciel qui s'y nichent sont d'une autre nature. Ce sont les oiseaux de Matthieu 13, 4. Vous savez, quand Jésus dit, quand la semence est tombée, les petits oiseaux viennent et ils mangent, n'est-ce pas, cette semence, ils détruisent cette semence. Dans Matthieu 13, 19, quand Jésus donne l'interprétation de ce qu'il a raconté, de la parabole qu'il a donnée, dans Matthieu 13, 19, Jésus dit que les oiseaux, c'est le malin. Tous ces imposteurs, tous ces faux prophètes qu'on voit partout, qui piaillent partout, qui cherchent qu'une chose en réalité, c'est de se nourrir de la vie de l'arbre, d'être protégé, d'être mis en sécurité dans la vie de l'arbre. On ne les trouve pas qu'en Matthieu 13, on les trouve aussi dans Apocalypse 18, 1 à 20. Je vais vous le lire, Apocalypse 18, 1 à 20. Nous devons toujours avoir plusieurs témoignages des Écritures au sujet de ce que nous disons pour pouvoir établir une vérité. Apocalypse 18, 1 à 20. Alors, c'est une longue lecture, mais écoutez bien. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. » Maintenant, Jésus parle de Babylone la grande, c'est de l'Église, de ce qu'elle est devenue, de cette organisation monstrueuse. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Vous voyez les oiseaux ? Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, hein, vous les voyez tous en train de défiler pour aller faire les bisous à la bague, hein, là-bas. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle, parce qu'ils ne font pas que d'embrasser la vague, ils font aussi des contrats, ils font toutes sortes de choses que vous, les petites gens du peuple, ne savez pas, vous ignorez les choses, mais ça se fait dans notre dos, et puis ça se discute, et puis voilà. Les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité, au luxe, pleureront, se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison.
cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, de fin lin, de pourpre, de soie d'écarlate et de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, d'airain, en fer, en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme, d'hommes.
Avez-vous remarqué les marchands, hein, les marchands du temple, les marchands de cette église monstrueuse, n'est-ce pas? Eh bien, donc ils vendent des choses, tout est à vendre, hein, tout est à vendre. Ça commence, n'est-ce pas, par des cargaisons d'or, et puis ça finit par l'âme des hommes. Oui, l'âme de l'homme, ça n'a plus de valeur. À l'heure actuelle, l'âme de l'homme, ça ne vaut plus rien. On vous massacre des gens par milliers, et puis on vous montre ça à la télé, et puis hop, boum, boum, terminé. Et puis, ça, c'est comme ça maintenant. Quand vous regardez ces marchands, n'est-ce pas, de la terre, eh bien, ce qui les intéresse, ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les gens qui travaillent, ce n'est pas les gens qui sont... Non, c'est l'or, l'argent, et puis toutes ces choses, les pierres précieuses, le fin lin, le pourpre écarlate, et tous ces trucs. Puis à la fin, des chevaux, des chars de corps, et des âmes d'hommes. Voilà, les âmes des hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement « Quelle ville était semblable à la grande ville ? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête et pleuraient. Ils étaient tous dans le deuil et criaient en disant « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Un repère de tout oiseau impur et odieux. Qu'est-ce que je dois prêcher, moi? Qu'est-ce que je dois prêcher? Que tout le monde, il est beau? Que tout le monde, il est gentil? Non, non. Je dirai la vérité. Par amour pour mon Seigneur, par amour pour les enfants de Dieu, par amour pour les serviteurs de Dieu et par amour pour son épouse. Vous voyez? C'est un royaume, et dans ce royaume, il y a Dieu que je dois servir. Il y a ses serviteurs dont je fais partie. Il y a ses enfants. Il y a l'épouse. Et c'est à eux que je m'adresse. Et si vous n'aimez pas ça, c'est que vous n'aimez pas la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole de Dieu si vous aimez Dieu, ce que Dieu dit. C'est ce qui est le plus important. Alors, tant pis si vous ne m'aimez plus. Il y a assez de raconteurs de fables qui piaillent dans les branches de l'Église. Frères et sœurs, à vous je dis, ne vous lassez pas de faire le bien. N'ayez pas peur. Jésus ne nous dit pas que nous devons chasser les oiseaux qui viennent vers nous, qui viennent se poser un moment sur l'arbre. Non, il ne nous dit pas ça. Il nous avertit juste en nous disant, voilà, par amour, ne vous laissez pas impressionner. Par leur agilité, par leur mobilité, par leur volubilité, par leur piaillement, ne vous laissez pas impressionner. Restez dans la simplicité. Entrez en vous-même. Voyez, sortez du milieu d'elle, ça veut dire entrez en vous-même. Entrez en vous-même. Pourquoi entrez en vous-même? Parce que c'est en vous que réside le Saint-Esprit. En vous-même. Entrez en vous-même, là où demeure le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne demeure pas dans une organisation. Il ne demeure pas dans une dénomination religieuse. Des chrétiens s'y trouvent, bien sûr, mais Jésus se trouve dans les chrétiens, pas dans l'organisation, pas dans ces trucs-là, non. Entrez en vous-même. Entrez, soyez en communion avec le trône. Avec le trône, là où siège Jésus. Soyez en communion avec le tronc, c'est-à-dire avec les anciens, avec ceux qui ont été fidèles, avec ceux qui ont remonté la vie depuis les racines, qui ont payé même de leur propre vie pour en arriver à vous livrer la sève, n'est-ce pas ? depuis la semence originale, depuis le cœur de Jésus-Christ, depuis cette graine qui a été semée il y a 2000 ans. Le royaume de Dieu, c'est alors que l'arbre a grandi, que les oiseaux sont là, ce royaume de Dieu, visible sur toute la terre, est alors aussi comme du levain. Maintenant, voyez, il change la parabole. Il faut suivre dans l'esprit. Il change la parabole. C'est une autre vision, mais ça parle de la même chose. C'est toujours le royaume. Et voilà que maintenant, il dit, c'est comme du levain. Parce que c'est comme du levain. Le levain, c'est toujours le symbole du mal dans toute la Bible. Et là, il y en a qui ont dit, oh, ben, pour une fois, eh bien, le levain, c'est le symbole du bien, parce que c'est, Jésus dit, c'est le royaume de Dieu, alors c'est le symbole du bien. Non! Restons dans la symbolique biblique, dans les choses de l'esprit. Le royaume de Dieu qui est visible alors que maintenant il a grandi, que l'arbre est là, que tous les oiseaux piaillent dans les branches en faisant un bruit pas possible, en cherchant à impressionner les élus même si c'était possible, alors c'est comme du levain qui est jeté par une femme. Une femme, Babylone la grande, la mère de toutes les prostituées, prostituées au sens spirituel, c'est-à-dire de toutes ces religions. Le levain est le symbole de la présence du mal. Le mal est aujourd'hui présent et se manifeste dans les trois mesures de farine. Il nous est dit comme une femme, c'est comme une femme qui a rejeté du levain dans trois mesures de farine. La farine, qu'est-ce que c'est la farine? C'est le produit du blé, mes frères et sœurs. Le grain de blé qui a été jeté en terre, c'est Jésus. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes trois mesures de farine. Nous sommes trois grands courants issus du même grain. Trois mesures se réclamant des origines. Vous avez le catholicisme, vous avez le protestantisme et vous avez les évangéliques. C'est les trois mesures de farine. Mais quelqu'un a jeté du levain là-dedans. Le mal a été introduit. La présence du mal est partout. Ce levain s'est répandu dans toutes les parties de l'œuvre de Dieu. Alors on trouve ce levain dans le modernisme, on trouve ce levain dans le libéralisme, on trouve ce levain dans la théologie de la libération qui exalte les idéaux humains et les place au-dessus de l'autorité des Écritures. C'est l'esprit du monde, c'est-à-dire de l'immoralité dans l'Église. C'est la recherche de positions importantes. C'est à celui qui va avoir la plus grande œuvre. Le pouvoir, la satisfaction personnelle, des fausses doctrines, des faux docteurs, des faux prophètes, tous déguisés en brebis. Ils ont tous l'air beaucoup plus spirituels et beaucoup plus remplis d'amour que les véritables prophètes de Dieu. Les véritables prophètes de Dieu sont toujours en train de rouspéter. C'est aussi la présence de tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment nés de nouveau. On trouve ce levain partout. C'en est au point, mes frères et sœurs, où on ne sait plus ce que c'est que la marche dans la foi, la marche dans la sainteté, la marche dans la justice. Tout ça s'est dilué dans la corruption. Frères et sœurs, veillons à ce que ce levain du mal n'affecte pas notre propre vie. Pour réussir, mes frères et sœurs, pour réussir, nous devons par la foi garder les yeux fixés sur Jésus, le modèle, le grain de blé, le grain de sève. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Nous devons vivre dans l'attente du retour de Jésus pour réussir. Nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à quiconque veut l'entendre. Vous savez, quand le Saint-Esprit est là et que des gens sont spirituels, il n'y a pas besoin de courir à gauche, à droite pour aller trouver une parole qui vient de Dieu. J'ai assisté à des choses lamentables dans ce sens-là. C'était un petit peu comme, vous voyez, les chrétiens courent derrière les prophètes un petit peu comme dans le monde, les gens courent derrière Madame Irma pour avoir la bonne aventure qui parle en général d'amour,
d'argent, de voyage, de santé, c'est toujours la même chose. C'est un truc diabolique qui est christianisé, qui a pris une apparence. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Chacun d'entre vous, vous pouvez entendre vous-même le Saint-Esprit vous parler. Soyez prêts à accepter de souffrir en luttant pour le bien. Je ne dis pas de lutter contre le mal. Si vous luttez contre le mal, vous lui donnez de la force. Laissez ça. Laissez ça. Prenez la défense de la Bible. Prenez la défense de l'évangile de la grâce. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Veillez et priez. Persévérons dans l'amour fraternel. Persévérons dans la Sainte Cène. Persévérons dans les prières. Le Seigneur Jésus nous aidera. Le Seigneur Jésus nous guidera. Il ne nous menace pas. Il nous dit, viens à moi, mon petit troupeau. Sors de tout ça. Reste tranquille, je reviens bientôt. Reste tranquille, je prends soin de toi. Fais ce que je te dis de faire. Annonce l'évangile partout, principalement aux pauvres. Prie pour les malades et puis tout le reste, ben, laisse tomber. Je vous dis ça à vous qui m'écoutez un peu partout dans le monde. Vous êtes des milliers. Vous savez que sur Internet, là, vous êtes 30% plus nombreux que l'année passée. Vous êtes des milliers, des milliers, des milliers, des milliers chaque semaine à écouter. Ne croyez pas que vous êtes tout seul dans votre coin. Et toutes les lettres que je reçois, qui sont des prières, et je prie pour vous. Je prie pour vous. Attachez-vous à Dieu. Je vous dis ça pour vous consoler, parce que je sais que vous souffrez. Vous souffrez, vous, dans les pays totalitaires. Vous souffrez, vous, dans les pays où on a tout ce qu'il faut, comme ici, là, en France, en Suisse, en Europe, on a tout ce qu'il faut, mais on est malheureux parce qu'il n'y a plus de souffle de l'esprit, il n'y a plus... Et nous avons besoin de cela. Revivre les choses. Rappelez-vous comment c'était au début. C'était un tout petit royaume, mais le roi était tout aussi grand qu'aujourd'hui. C'était le roi Jésus-Christ. Si vous vous mettez sous le Seigneur Jésus-Christ, il saura vous conduire, vous guider, que vous ayez l'apôtre Pierre avec vous ou pas, que vous ayez un prophète avec vous ou pas. Si vous êtes avec Jésus, personne ne peut rien vous faire de mal et rien de mal ne peut vous arriver. Soyez donc dans la paix. Luttez pour le bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. C'est là toute ma prière pour vous et à bientôt. Au revoir et merci. Que Dieu vous garde.